Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de la séquestrée de Poitiers qui a fait beaucoup de bruit à l'époque en 1901. L'histoire de Blanche Monnier, malade mentale, que sa mère enferme pendant 25 ans dans sa chambre, volet fermé, nue et vivant sur ses excréments. Toute la ville était au courant. Personne n'a osé intervenir. La mère a-t-elle enfermé Blanche parce qu'elle était malade mentale? Ou l'est-elle devenue parce que sa mère l'a enfermée? Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité Jean-Marie Augustin, qui a écrit le livre de référence sur cette affaire, l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers, chez Fayard. La réalisation de cette histoire est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Au matin du 23 mai 1901...
Monsieur le procureur, tenez un courrier pour vous.
Une lettre anonyme arrive sur le bureau du procureur général de Poitiers. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur un grabat infect et en un mot dans sa pourriture depuis 25 ans. Signé, un compatriote indigné. Pour être honnête, ça n'est pas la première fois que le procureur de Poitiers entend parler de ce cas. Ça fait quelque temps en effet qu'on dit en ville qu'une fille de bonne famille vit recluse. Mais on dit qu'elle est folle à lier et que sa mère Louise Monnier ne fait que la protéger. Alors jusqu'ici, on s'en est tenu à cette version. Le procureur n'a pas bougé. Les Monnier étant par ailleurs une famille fort honorable. Mais là, il y a une lettre. Et le procureur se dit qu'il serait peut-être temps de cesser de faire l'autruche. Et donc il confie au commissaire central de Poitiers, Pierre Bucheton, une enquête. Et l'après-midi même, le commissaire se présente chez les Monnier, au 21 rue de la Visitation. Belle maison, hein ? Presque un hôtel particulier. Et quand le commissaire lève la tête, il remarque tout de suite une fenêtre dont les volets sont clos. La seule qui soit fermée, au deuxième étage. C'est la bonne qui lui ouvre. « Madame Monnier, je vous prie. »«
Madame Monnier ne reçoit pas, elle est alitée. »«
Veuillez, je vous prie, dit la madame veuve Monnier, que je suis commissaire principal de police, et que je désire absolument lui parler. »
Un commissaire, normalement, ça impressionne. Mais pas madame veuve Monnier.
« Monsieur le commissaire, madame ne peut pas vous recevoir. Elle vous prie de vous adresser à son fils. Il habite juste en face, là, vous voyez ?»
Bon, va pour le fils. Le commissaire traverse la rue, il sonne, et il s'entend dire par la bonne du fils.
Ah, c'est que monsieur Monnier est indisposé.
Décidément, chez ces gens-là, tout le monde est indisposé. Il insiste, il menace peut-être un peu, et finalement, Monnier fils consent à le recevoir.
Bonjour, monsieur. Voilà, je suis ici parce que une lettre anonyme dénonce madame votre mère comme séquestrant votre sœur. On nous dit qu'elle serait au lit depuis 25 ans, au milieu d'une pourriture infecte.
Ah, mais j'ignore tout ce que vous me dites, monsieur le commissaire.
Ce qui est embêtant, c'est que cette lettre dit que la fenêtre de la chambre de votre sœur est cadenassée. Or, justement, je vois qu'au deuxième étage se trouve une fenêtre dont les persiennes sont closes. Voudriez-vous me mettre en présence de votre sœur, monsieur?
Écoutez, je suis tout à fait étranger à tout cela. Ma mère et ma sœur habitent ensemble dans une maison qui est là, vous la voyez, qui n'est pas la mienne. Et je ne puis pas vous autoriser à voir ma sœur si le docteur n'y consent pas.
Écoutez-moi bien, monsieur. Cette lettre porte une accusation grave. Amenez-moi auprès de votre sœur, s'il vous plaît. Ou pas, d'ailleurs.
Marcel Monnier accompagne le commissaire chez sa mère, en face, laquelle monte tout de suite sur ses grands chevaux. Mais c'est un commissaire, elle n'a pas le choix. Et d'ailleurs, il est déjà dans l'escalier, il est en route pour le deuxième étage, là où il a vu le volet fermé. Et le fils lui emboîte le pas.
et arrivé devant la porte. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît.
Le fils ouvre, le commissaire fait un pas dans l'obscurité. Il a une odeur, il ressort tout de suite, il est au bord de vomir. Il prend un peu d'air frais, il bloque sa respiration et il rentre à nouveau dans la chambre. Et la première chose qu'il voit, c'est la chaîne qui maintient les volets cadenassés.
C'est une précaution, hein, c'est pour éviter que ma sœur ne se jette par la fenêtre.
Sa sœur, justement, elle est là. Dans un angle de la chambre, sur un tas d'immondices, une silhouette humaine enfin, à peine humaine, ratatinée, recroquevillée, décharnée. Le commissaire file dardard au palais de justice prévenir le procureur. Et il revient une heure plus tard avec un juge, le juge Dufresnel.
Vous allez voir, c'est absolument insupportable, hein, monsieur le juge. Hein. Jeune homme, vous pourriez ouvrir les persiennes, s'il vous plaît.
Avec la lumière du jour, la scène est terrifiante. Voilà ce qu'il écrira dans son rapport. Nous apercevons dans le fond, étendu sur un lit, le corps et la tête recouvertes d'une couverture d'une saleté repoussante, une femme que Marcel Monnier nous dit être Mademoiselle Blanche Monnier, 52 ans, sa sœur. La malheureuse est couchée, toute nue sur une paillasse pourrie. Tout autour d'elle s'est formée une sorte de croûte, faite d'excréments, de débris de viande, de légumes, de poissons et de pain en putréfaction. Des bêtes courent sur le lit. Nous lui parlons, elle pousse des cris. La maigreur de Mademoiselle Monnier est effrayante, sa chevelure forme une natte épaisse qui n'a point été peignée et démêlée depuis longtemps. L'air est tellement irrespirable, l'odeur qui se dégage de l'appartement est tellement fétide, qu'il nous est impossible de rester plus longtemps pour procéder à d'autres constatations. Dans la chambre, le juge prend les choses en main.
Oh mon Dieu, enroulez-la immédiatement dans une couverture, s'il vous plaît, et emmenez-la à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, et vite, hein.
Et c'est au moment où on l'emmène que le juge s'aperçoit qu'elle sait parler.
Oh, faites ce que vous voulez, mais... « M'enlevez pas ma chère petite grotte !»
À l'Hôtel Dieu, on lui coupe les cheveux, ou plutôt, on lui coupe la grosse natte immonde qui lui sert de chevelure. Et on la met sur une balance. La natte de cheveux crasseux pèse 25 kilos. On va la garder, tiens, comme pièce à conviction. Pendant ce temps-là, le juge est toujours sur place.
Monsieur Monnier, je vous prie, vous pouvez me montrer le reste de la maison ?
La maison est bien tenue. Il y a des lits en veux-tu, en voilà, inutilisés. Il y a des draps propres à profusion. Donc si elle est dans cet état, c'est qu'ils l'ont voulu.
Bon, il va falloir nettoyer cet endroit, c'est une infection.
Mais avant, le juge fait mettre dans des bocaux tous les insectes qui grouillent dans la paillasse. On en remplit un plein bocal. Il note aussi qu'il y a deux trous au mur qui permettent la circulation des rats. Et il remarque enfin qu'il y a un deuxième lit dans la chambre, bien tenu celui-là, avec des draps bien propres.
À quoi sert donc ce lit ?
C'est pour Eugénie, la domestique. Elle dort là pour veiller sur Blanche toutes les nuits.
Le lendemain, le commissaire est de retour avec un mandat d'amener. Le juge lui a demandé d'arrêter et le fils et la mère, et de les mettre en prison. Quand elle franchit le soir même les portes de sa cellule, la mère, Louise Monnier, 75 ans, déclare
« Oh, est-il possible de faire tant d'affaires pour rien ?»
Dans les jours qui suivent, le juge fait venir les deux bonnes démoniées, Juliette et Eugénie. Elles vivent au cœur de la maison. Elles savent.
Oh ben, je vous jure que Mademoiselle Blanche est bien nourrie. Ah ça oui. On lui porte de tout. Mais elle mange pas grand-chose.
Pour le soir, elle mange qu'une brioche ou un gâteau. Et le matin, rien qu'une tasse de chocolat. Elle veut jamais de pain. Par contre, le midi, il y a souvent une sole frite ou une côtelette entourée de pommes de terre. Là, elle mange, mais avec les doigts.
Et concernant la propreté, mademoiselle?
Oh ça, on n'a jamais été vraiment d'accord, hein. On a souvent demandé à Madame Monnier de quoi changer blanche. Elle a toujours refusé. Alors que ça aurait été facile de lui faire sa toilette. Je vais vous dire, nous-mêmes, on a demandé à Madame de placer Mademoiselle Blanche dans une maison de santé. On l'a fait plus d'une fois. Elle nous a toujours répondu qu'elle avait fait le vœu de rester avec sa fille jusqu'à la mort.
Le juge apprend à l'occasion que la lettre anonyme, c'est grâce à Juliette, la bonne. Juliette a un bon ami, un militaire, et un jour elle lui a parlé de Blanche, et comme il ne la croyait pas, un soir tard sur la pointe des pieds, elle l'a emmené la voir, et le bon ami militaire ne s'en est pas remis. Le lendemain, il en a parlé à son lieutenant, et c'est ensemble que son lieutenant et lui ont écrit la lettre anonyme. Que fait le juge après avoir entendu les bonnes? Il ordonne qu'on lui amène la mère, Louise Monnier. Et là, il faut que je vous explique quelque chose. La mère elle-même vit claquemurée dans sa maison depuis 10 ans. Elle ne voit personne. C'est une vieille folle, une vieille folle. Le juge néanmoins lui demande de s'expliquer.
Oh, jamais je n'ai songé à séquestrer ma fille. Je l'aimais tant. Elle a toujours été libre de circuler dans la maison. La vérité, monsieur le juge, c'est que depuis 25 ans, elle s'est volontairement enfermée dans sa chambre. Je dirais même dans son lit. Elle s'est obstinée à rester dans son lit depuis 1876, peut-être même avant, malgré mes efforts et ceux de mon mari pour lui faire prendre l'air.
Elle dit que sa fille est malade. Pas depuis toujours, hein. Petite, ça allait bien. Elle a fait des études, elle aimait la lecture. La mère dit que ça s'est dégradé d'un coup vers ses 23 ans.
En 1872, je crois, ma fille a été atteinte d'une fièvre pernicieuse très grave. Et depuis lors, elle a voulu voir personne. Elle a refusé de mettre des vêtements, sous prétexte qu'elle n'avait pas la force de les porter. Elle mangeait très peu. Elle était extrêmement maigre. Elle ne voulait pas coucher dans des draps, vous voyez, quoi.
L'avez-vous montré à un docteur?
Oui, oui. Mais il y a déjà plusieurs années que le médecin ne vient plus la voir.
Et la saleté dans laquelle elle se trouvait, madame?
Mais elle ne voulait pas qu'on la touche.
Les domestiques disent qu'elles vous ont demandé de les laisser la nettoyer et que vous avez refusé.
Oh, monsieur le juge, ce sont des drôlesses, celles-là. Des menteuses, hein.
Elle dit qu'elle rend des visites à sa fille 2 fois par jour, mais que depuis 3 mois, elle est malade, elle n'allait plus du tout la voir. Et là-dessus, elle ne ment pas, elle est malade du cœur. Et d'ailleurs, 15 jours après son arrestation, en prison, elle meurt d'une crise cardiaque. À moins qu'elle ne soit morte de honte. Quand Blanche est arrivée à l'hôpital, on aurait dit une sorcière, avec sa natte, sa crasse, ses ongles gigantesques, une sorcière. Elle pesait 25 kilos à 52 ans pour 1,55 m. C'est pas lourd. Mais depuis 10 jours qu'elle est à l'hôpital, ça va déjà beaucoup mieux. La mère disait qu'elle ne mangeait pas. Elle mange. Elle a pris 10 kilos. La mère disait qu'elle refusait de se laver. Maintenant, elle se lave et elle fait ses besoins dans un seau. En revanche, son état psychique est inquiétant. Son retard intellectuel est béant. Elle écrit à peine. Elle répond aux questions, mais elle n'en pose aucune. Et tout ce qui est à l'extérieur de l'hôpital l'indiffère totalement. À part les fleurs. Elle raffole du parfum des fleurs. Et surtout, elle ne veut plus entendre parler de sa famille.
Voulez-vous revoir votre frère? Qui reste où il est? Mais qui reste où il est? Est-ce que vous étiez bien dans votre maison? Ah, ne me parlez pas de ça, hein.
Cela dit, il lui arrive encore de dire:
ah ben, Je regrette bien ma chère petite grotte.
On attend avec impatience l'avis des médecins, qu'on appelle à l'époque des aliénistes. On est en 1901, la psychiatrie est balbutiante. L'expert s'appelle le docteur Lagrange.
Elle ne jouit pas de ses facultés, ça c'est clair. Elle tient des propos extravagants. C'est une aliénée, hein. Il n'y a pas de doute.
Maintenant que la mère est morte, si on veut faire un procès à quelqu'un, absolument, il ne reste plus que le frère. Il dit qu'il ne savait pas, mais les bonnes ont dit qu'il savait. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Le juge l'interroge et il confirme en gros ce qu'a dit sa mère avant de mourir. Blanche a périclité à partir de 1872, à la suite, dit-il, d'une fièvre. Elle ne voulait plus sortir de sa chambre, elle voulait rester toute nue. La mère a voulu la garder auprès d'elle. Mais lui, dit-il, aurait voulu la faire interner. Voilà, monsieur le juge. Pensez-vous qu'il va s'en tirer à si bon compte? On est en 1901. Et à cette époque, la presse adore ce genre d'histoire. Des journaux comme le Petit Journal, l'Illustration ou la Fronde en font leur feuilleton quotidien. Il l'appelle la séquestrée de Poitiers et il ne se gêne pas pour publier en grand, à la une, sa photo en sorcière avec sa longue natte crasseuse. Vous la trouverez sur Internet, cette photo. Et dans cette affaire, les journalistes vont avoir un rôle, un sacré rôle. Parce que là, on fait mine de tout découvrir en poussant des cris d'horreur. Mais à Poitiers, ça fait des années que ça jase sur le sujet. Des années qu'il se murmure une histoire qui n'a rien à voir, vous verrez, avec ce que nous ont raconté la maman et le petit frère. Une histoire que le plâtrier Théodore Touchard, par exemple, raconte aux journalistes du journal de la Vienne.
« Bon ben enfant, mademoiselle Blanche était pétillante, elle était sautillante, ça oui. Et puis à l'âge de 22 ans environ, j'ai remarqué qu'elle a, j'ai pas été le seul, hein, qu'elle se rendait souvent dans l'impasse où demeurait Monsieur Calmeil. Le fils, c'est un avocat. Et quelque temps après, le bruit a couru que mademoiselle Blanche allait se marier avec ce monsieur Calmeil. Moi, ça m'a étonné. Il était bien plus âgé qu'elle. Il avait 38 ans, et elle 23. Et puis les mois ont passé, et le mariage ne s'est pas conclu. C'est juste après que mademoiselle Blanche n'est plus sortie de chez elle. Jamais. C'est juste après qu'on l'a plus vue, quoi.
La mère, disent les gens, c'est dans le journal, ne voulait pas que cet avocat devienne son gendre. Et de un, parce qu'il était protestant, pas de ça chez nous, et de deux, parce qu'il était le fils d'un républicain. Les Monnier haïssaient les républicains, depuis toujours. Alors les parents ont dit non, et ils l'ont enfermé, et ça l'a rendu folle. Voilà ce que disent les gens. Mais ils ne disent pas que ça. Ils disent aussi que Blanche serait tombée enceinte de l'avocat. Et qu'on n'a jamais vu le bébé, jamais. Est-ce qu'il est mort? Sans doute. Tué? Mort-né? On ne sait pas, on ne saura pas. En tout cas, c'est après cet épisode que Blanche a été séquestrée par sa mère pendant 25 ans. Elle l'a rendue folle. Elle l'a rendue folle. Mais qui était donc cette femme, la mère, Louise Monnier? L'abbé de la famille, l'abbé Montbron, n'y va pas par quatre chemins.
Oh, c'était une femme terrible, terrible, fantasque, dure, dure, impérative, despote. Mais lui, le père n'était pas en reste, hein. C'est lui, hein, qui a fait sceller les persiennes à l'étage parce que Blanche se mettait toute nue à la fenêtre. Ça faisait scandale, quoi.
Et ça, c'est confirmé par les bonnes.
Oh, ben, mademoiselle Blanche, elle avait un peu la tocade de rester le bas du corps tout nu. Quand on lui donnait une chemise propre, elle faisait un trou dans le bas, puis crac, elle déchirait le reste par l'embauche jusqu'au bas du ventre. Elle se mettait un morceau de flanelle sur la tête et sur le dos, elle se mettait une camisole. Et puis, bon, elle allait se promener comme ça, dans le jardin, et elle sautait comme une biquette à travers les allées. Fallait voir ça.
Tous sont d'accord sur un point, Ça s'est aggravé à la mort du père en 1882.
Oh ben, Mademoiselle Blanche, elle voulait pas voir sa mère, hein. Quand elle venait la voir, elle lui jetait son pot de chambre à la figure. Ben alors, Madame Monnier, elle a dit comme ça, ben, si c'est ainsi, je te laisserai dans la saleté.
Au début, la vieille bonne Marie, qui travaillait au service de Madame depuis 45 ans, a tout fait pour la soigner. Les premières années, elle a nettoyé sa chambre tous les jours. Et puis elle a baissé les bras, et voilà comment on en est arrivé là. Le juge commence à avoir une idée assez précise de la longue descente aux enfers de Blanche Monnier. C'est à ce moment-là qu'on ouvre le testament de la mère Monnier. Tous les journaux le publient, parce qu'il est absolument incroyable. La mère Monnier lègue la totalité de ses biens à sa fille, Blanche, tout. Il n'y a rien pour le fils. J'entends que tous les revenus que ma fille recueillera après mon décès soient exclusivement consacrés aux soins qui lui sont nécessaires. Et du coup, la méchante mère Monnier se retrouve moins méchante que prévu. Et du coup, les journalistes retournent leur veste et, faute de pouvoir défendre la mère, ils défendent le fils. Je lis dans Le Matin, par exemple. On ne croit pas que M. Monnier puisse être considéré plus longtemps comme complice d'un crime qui n'existe pas. Le juge, en revanche, a bien l'intention de faire juger le fils Monnier. Il le renvoie devant la chambre d'accusation de Poitiers pour séquestration criminelle avec torture. Il veut la cour d'assises où Marcel Monnier risque la peine capitale. Mais le fils Monnier a les moyens de se payer un bon avocat. Maître Barbier, par exemple, qui rédige un rapport de 96 pages, qu'il adresse à la chambre de l'instruction. Il y explique que Blanche était hystérique et anorexique, qu'elle n'était pas séquestrée mais recluse, nuance. Et il joint au dossier une lettre que son frère a écrite à Blanche en août 1882, alors qu'il était en villégiature à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque. « Ma petite Blanche, j'espère que tu n'es pas malade en ce moment. Soigne-toi bien, prends une robe comme tout le monde, et quand je serai de retour à Poitiers, nous irons faire une promenade ensemble. Ça vaudra mieux que de rester enfermé dans ta chambre. » Et là, il convainc les magistrats de la chambre de l'instruction. Ça ne sera pas la cour d'assises avec la peine capitale en point de mire. Ce sera le tribunal correctionnel devant lequel il encourt 5 ans de prison maximum. Ouf ! Le procès s'ouvre le 7 octobre 1901. Et il faut avoir le cœur bien accroché parce que dans la salle d'audience, on expose les pièces à conviction, les draps souillés de Blanche et la fameuse natte de 25 kilos. La puanteur est telle que le président n'y tient pas.
« Emballez-moi tout ça, s'il vous plaît, c'est une horreur !»
Et commence le défilé des témoins, qui viennent tous dire que le fils, Marcel, n'avait aucune influence sur sa mère.
« Oh ben, elle disait tout le temps, je veux pas qu'il fasse la loi chez moi, vous voyez ?» Et elle disait aussi, s'il continue, je lui supprime sa pension.
Ce que les bonnes, Juliette et Eugénie, confirment à la barre.
Ah ben, Madame Monnier lui disait, t'es rien ici, va-t'en.
L'avocat de Marcel, Maître Barbier, ajoute par ailleurs que son client est extrêmement myope depuis toujours et qu'il n'a aucun odorat.
Figurez-vous qu'un jour, des amis lui ont fait manger de la crotte de bique saupoudrée de sucre en lui faisant croire que c'était des fraises. Eh bien, il n'a pas vu la différence.
Et un médecin vient confirmer qu'il est myope comme une taupe.
Il y voit à peine un dixième. Il est vraisemblable qu'il n'ait pas pu voir l'état dans lequel se trouvait sa sœur. Étant donné d'ailleurs que la chambre était assez obscure.
Derrière les culs de bouteille qui lui servent de lunettes, Marcel Monnier lui-même en remet une couche.
Je ne me figurais pas du tout que ma sœur était dans un état aussi effrayant. J'étais loin de le penser.
Vous avez proposé à votre mère de mettre votre sœur dans une maison de santé. Pourquoi ne pas avoir agi, monsieur ?
Mais je l'ai fait. J'ai tellement insisté que ma mère m'a mis à la porte. Vous savez, ma mère était maîtresse chez elle. Si je l'ai pas fait, c'est que... Mais j'ai pas pu le faire.
Et comme il faut un responsable, l'avocat de Marcel rejette tout sur les bonnes.
Les vrais complices ! Les voilà, vous les avez là !
Facile. Sauf que plus de 10 témoins viennent dire que les deux bonnes, Juliette et Eugénie, les ont fait entrer en cachette dans la chambre pour qu'ils se rendent compte. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles n'étaient que des bonnes. Le 11 octobre 1901, Marcel Monnier est reconnu coupable et il est condamné à 15 mois de prison. Quand Blanche apprend le jugement, elle éclate de rire.
Mais qu'on le laisse où il est, je l'emmerde.
Marcel Monnier fait appel. Un deuxième procès se tient en novembre. Maître Barbier plaide à nouveau.
Cherchez l'acte de violence qu'aurait commis Marcel Monnier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Et cette fois, la cour d'appel acquitte Marcel Monnier. Il sort de prison le jour même. Et dans la foulée, il touche l'héritage de sa mère. Et il va s'installer à Saint-Jean-de-Luz, où il meurt en 1913, à l'âge de 65 ans. Et Blanche ? Qu'est devenue Blanche ? En juin 1902, elle quitte l'hôpital. Et elle est internée à l'asile public de Blois, où elle vit seule dans une chambre pendant 11 ans. Elle meurt en 1913, totalement sénile, à l'âge de 64 ans. Incroyable histoire que j'ai donc tirée du livre de Jean-Marie Augustin chez Fayard, l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers. Jean-Marie Augustin, qu'est-ce qui a attiré l'historien du droit que vous êtes vers cette histoire, en dehors du fait que vous avez longtemps enseigné l'histoire à l'université de Poitiers?
Bon, la raison d'abord, c'est parce que moi-même, je suis poitevin, et donc j'ai toujours entendu parler de cette affaire. Et puis, c'est aussi une référence en droit pénal, notamment ce qui est confirmé par la Cour d'appel, il n'y a pas d'infraction de commission par omission. C'est-à-dire qu'une abstention, ne rien faire à l'époque, hein, ne peut pas
constituer un crime,
une sanction, une peine. Voilà. Ouais.
Donc c'est le poids de droit qui vous a intéressé. Et alors, est-ce que c'est une histoire qui s'était répétée génération après génération par le bouche à oreille et déformée au passage et qu'il vous a fallu rectifier en quelque sorte ?
Alors, certainement. D'abord, il y a eu le livre d'André Gide en 1930, « Ne jugez pas », qui se contente de reprendre les faits, tout simplement. Et puis, effectivement, ça fait partie de ces grands procès poitevins, il y en a d'autres, hein. Et on en a toujours beaucoup parlé. Mais aussi, je pense qu'il y a eu aussi, il y a eu des émissions, il y a eu la télévision, etc. Je crois que c'est une affaire importante, et vous l'avez dit aussi, la presse en a beaucoup parlé à l'époque, l'illustration, la presse nationale, hein. S'en est emparé au moment de l'affaire et au moment du procès.
Ça colle à l'époque, cette espèce de soulèvement de cœur, en fait, devant la misère de cette femme. On voit une société qui d'un coup dit « ça n'est pas possible ». Et voilà. Peut-être que 10 ans avant, elle n'aurait pas dit ça. Et d'ailleurs, elle ne l'a pas dit. Donc ça colle pile à l'époque, à ce début de XXe siècle.
Oui, alors on s'apitoie sur la pauvre Blanche, évidemment, et ensuite, après, on est scandalisé par l'attitude de la mère et du frère. On ne comprend pas que dans une famille de notables, le père était doyen de la faculté des lettres, c'est pas rien, et qu'on puisse ainsi se comporter de cette manière et qu'on laisse... Elle n'est pas séquestrée vraiment, mais qu'on quand même, on la laisse dans cet état d'abandon et de saleté que vous avez décrite.
Même si probablement à l'hospice ou à l'époque dans les asiles d'aliénés, on est à peine mieux traité.
Simplement, elle était à la Villa Lunier, à Blois. La famille payait, le frère s'en est occupé, et elle était dans de meilleures conditions que la plupart des aliénés.
Oui. L'aliénation, à l'époque, a amené dans des lieux absolument sordides. Faut pas, elle n'est pas passée tout dans... Elle a été bien traitée, parce qu'évidemment, l'attention a été focalisée sur elle. Mais oui. le sort des aliénés à l'époque n'était sans doute pas très enviable. Hein.
Ah, tout à fait. Mais c'était vraiment, malgré tout, un hôpital très en avance. Le docteur Doutrebent, à Blois, avait vraiment, c'était un bon psychiatre, et elle était mise dans sans doute un des meilleurs asiles de France à l'époque, avec, je vous dis, quand même, un traitement particulier.
Il y a une ambivalence dans cette histoire, parce que on ne peut pas dire que la mère n'aime pas sa fille. Il y a de la générosité dans le fait de dire « je veux rester avec elle jusqu'à ma mort ». Cette fille est fragile, elle la protège.
Oui, d'abord parce que dans les familles de l'époque, quand on a un problème de ce genre, on le gère tout seul, on le gère entre soi. Donc, chez les notables, on conserve dans sa famille, chez soi, les difficultés, les gens qui sont fous, qui sont malades, etc. Donc, c'est le cas. Et la mère a une attitude tout à fait ambivalente. Par exemple, elle fait venir des meilleurs restaurants de Poitiers, des plats raffinés qu'elle propose à sa fille, mais la fille ne les mange pas. Parce que il y a les deux, si vous voulez. Elle est en conflit avec sa mère, et en même temps, sa mère est en conflit avec elle, mais elle l'aime aussi. Et vous l'avez dit, le testament prouve qu'elle veut s'en occuper après sa mort.
Que
donc
c'est son
il y a un sentiment tout à fait ambivalent du côté de la mère Meunier. C'est vrai, oui, tout à fait ambivalent.
D'autant plus ambivalent qu'en revanche, elle semble détester son fils.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir petit à petit, parce que au départ, on pense que elle s'intéresse uniquement à son fils qui avait été sous-préfet, etc., et qu'elle ne s'occupait pas de la fille, alors que, comme vous l'avez dit, au moment où on découvre le testament, c'est tout à fait le contraire.
Le fils n'a quasiment pas le droit de traverser la rue.
Voilà. Voilà, il y a une opposition flagrante. Il y a une histoire d'argent aussi, parce que d'après le testament du père, cette fois, la mère devait verser une pension à son fils et elle ne le fait pas ou le fait beaucoup de retard. Donc il y a un conflit à la fois mère-fille, mère-fils, et il y a malgré tout, du côté de la fille, bon, je crois un sentiment de devoir aussi d'une mère à l'égard d'une fille qui se trouve dans un état de dénuement le plus complet.
Mais
elle ne peut rien faire, elle n'a pas les moyens de le faire, parce que c'est aussi, Blanche, c'est un fort caractère aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas facile, qui arrive parfois à hurler, qui se défend, qui est ordurière, qui est nymphomane, etc. C'est un gros problème pour cette mère de s'occuper de sa fille. C'est vrai aussi, ça il faut quand même le remarquer.
La mère est-elle, n'est-elle pas folle elle-même ? Elle est enfermée depuis 10 ans. Elle est enfermée depuis 10 ans dans cette maison au moment où l'enquête commence.
C'est des gens qui ne sortent pas. Hein. Ils sont toujours entre eux. Et ils aiment presque tous la saleté, le frère, la mère, le grand-père aussi, qui est mort depuis longtemps. Il y a un tas de témoignages où ils se complaisent véritablement dans la saleté avec le fils même des tendances coprophiles. Vous voyez que ce n'est pas une famille exemplaire de la bourgeoisie.
Coprophile, au témoin d'un doute, ça veut dire qu'il mange quoi ?
Ben, qu'il aime les excréments, il y a un attrait pour les excréments. Non, il ne les mange pas. Mais il y a l'histoire des crottes de bique que vous avez racontée.
Oui. Et il y a
aussi des tendances, c'est-à-dire qu'il, il a un attrait pour les excréments. Faut quand même le remarquer. Il y a, par exemple, il ne fait pas vider son vase de nuit, tant qu'il n'est pas à ras bord, des choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui, alors ça va servir au procès parce que il n'a aucun odorat ou même, presque une certaine satisfaction à sentir la saleté, sentir les mauvaises odeurs.
Et empester son encourage. Alors, voilà, est-ce qu'on doit croire, à votre sens, à 100% les journalistes qui racontent donc cette histoire de mariage impossible avec cet avocat de 38 ans ?
Moi, je pense que, du reste, c'est eux, les journalistes, qui vont donner le nom de séquestrés aussi. Je ne pense pas. Je pense que c'est un racontard, peut-être, d'une rumeur qui a été rapportée. Moi, je ne crois pas, parce que on a fait aussi, on a fait des fouilles dans le jardin, on a fait aussi des fouilles à Migné, ils avaient une maison de campagne, on a trouvé aucun ossement, on se trouve des ossements de chat ou de chien, donc on n'a pas trouvé d'ossement, et je pense que ce mariage était pratiquement impossible. La famille Calmeil, dont vous avez parlé, est une famille très connue à Poitiers, une famille d'avocats. Certes, ils sont protestants, mais je pense que peut-être la mère ou les parents auraient préféré peut-être caser leur fille d'une manière ou d'une autre. Ce mariage était pratiquement impossible, et je ne pense pas qu'il y ait même eu des soupçons des amourettes ou des d'autant qu'à l'époque on fait beaucoup de mariages arrangés. Moi je ne le pense pas du tout, hein. Ça n'intervient qu'au moment de la découverte de l'affaire, c'est-à-dire en 1901.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire qu'en 1901 les journalistes dégoissent complètement déjà?
Ah ben évidemment. Oui, mais la presse adore ce genre d'affaires, vous l'avez dit.
Elle brode, en plus,
on en rajoute toujours. Il y a eu du reste des feuilletons sur l'époque, il y a eu des complaintes sur la séquestrée. On va toujours un petit peu en rajouter, ce qui est tout à fait normal. La presse fait souvent ça, elle a besoin du sensationnel, et c'est une affaire sensationnelle.
Alors, votre hypothèse, si j'ai bien compris, est donc que Blanche est malade mentale, en vérité, que probablement, on la date autour de ses 23 ans, c'est l'âge auquel se déclenchent en général les psychoses. À quelle maladie mentale est-ce que vous la reliez, vous ?
Alors, il y a un psychiatre poitevin, le docteur Simat, qui a fait une analyse au point de vue médical, et pour lui, il s'agirait de schizophrénie.
Mmh.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a notamment le fait qu'elle se fait des fantômes de tout, qu'elle se soit coupée du monde, tout cela serait des symptômes de la schizophrénie. Mais comme vous l'avez dit, la psychiatrie à l'époque, elle balbutie. Je me demande même si le terme existe à l'époque. On parle de débilité, de démence précoce, mais le terme n'est jamais employé.
Oui, elle n'a pas formulé le nom de cette maladie qu'elle n'a pas identifiée. Vous avez raison. La maison en question, elle est toujours visible aujourd'hui,
oui.
Elle est identifiée comme telle à Poitiers, les gens disent, tiens, c'est là que cette fille a vécu 25 ans, deuxième étage.
Pas tellement connue, mais moi, quand je passe dans cette rue, j'ai dit, voyez, c'est la rue, c'est la chambre où était la séquestrée, et dans la maison, la maison a beaucoup changé, mais la fenêtre de la séquestrée y reste toujours.
Vous la regardez ?
Oui, évidemment.
Je vais vous faire une confidence. La dernière fois que je suis allé à Poitiers, je l'ai regardé longtemps aussi. En me demandant qui habite là, parce que quelqu'un doit vivre dans cette chambre qui a été un endroit incroyable.
Oui, oui, il y a des gens qui doivent y habiter, je ne sais pas s'ils le savent, mais il y a des gens qui y habitent. J'avais aussi un collègue qui habitait juste à côté.
Ouais.
Et lui, il le savait, évidemment.
Rappelez-moi l'adresse.
C'est aujourd'hui rue Arthur Ranc.
Arthur Ranc, vous n'avez pas le numéro, c'est juste
pour... Non, je n'ai pas le numéro, je n'ai pas le numéro en tête. C'est rue Arthur Ranc, c'est au-dessus d'un restaurant asiatique.
Ben voilà, message lancé aux habitants de la rue Arthur Ranc, au-dessus de le restaurant asiatique, la fenêtre
en haut. C'est en face de la poste aujourd'hui, parce que la prison a été démolie et remplacée par la grande poste.
Merci beaucoup Jean-Marie Augustin.
C'est moi qui vous le remercie.
De m'avoir confié votre histoire et d'avoir accepté de la commenter. Je rappelle le titre de votre livre qu'on trouve sur Internet d'occasion. Il est sorti en 2001 chez Fayard. L'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.